5. Les mains liées. Il se trouve dans l'ordre des choses que jamais on ne cherche à fuir un inconvénient sans tomber dans un autre. Mais la sagesse consiste à savoir connaître la nature des inconvénients et à prendre le moins mauvais pour un bon. Nicolas Machiavel. Dans la grande salle du château de Neuwiedine, la plupart des regards s'étaient détournés du frère sergent pour toiser, avec effarement, dégoût ou rancœur, le chevalier Ropi. Celui-ci, sans avoir perdu beaucoup de sa désinvolture, affichait néanmoins une expression un peu ennuyée, très semblable à celle qu'il avait eue quelques semaines auparavant, lorsqu'il avait été éclaboussé par le sang de l'ermite. Au mépris des convenances, Winmer lui-même ne s'adressait plus au comte, mais, à demi retourné sur son escabelle, lançait à l'aventureux un regard brûlant de haine. Gérian de Froeck, troublé, scrutait également son compagnon avec défiance. Dans cette noble assemblée, rares étaient les dignitaires qui avaient conservé tout leur sang-froid. Le sire de Vaumacel était cependant du nombre. Car quoiqu'il eût écouté le frère Winmer avec attention, il n'avait manifesté qu'une légère surprise en apprenant l'identité secrète du frère Hummel. Le comte de Kimark, le poing gauche serré dans la main droite, était également demeuré de marbre, manifestant un flegme qui contrastait singulièrement avec sa fureur de la veille. Un silence atterré pesa un moment sur l'étage noble, après les derniers mots du frère sergent. Ce fut l'archichapelain Rubestre qui finit par rompre ce mauvais charme. « Prions le desséché d'accorder la paix à l'ermite de Senante, » énonça-t-il avec gravité. « Il faut reconnaître au roi barbare un mérite criminel. En conférant à notre frère la couronne du martyr, il l'a élevé près des trônes de la divine tétrarchie. Mais s'il est juste de pleurer le défunt et de célébrer sa piété, il est peut-être prématuré de le tenir pour devin de Belcastel. » Se tournant vers Winmer, le prélat l'apostropha. « Vous-même, frère sergent, vous ignoriez tout de votre compagnon jusqu'à ces derniers instants. Je vous crois sincère dans l'édifiant récit que vous venez de faire. Mais n'avez-vous pu être abusé? Le frère Hummel a-t-il reconnu sans ambiguïté qu'il était devin de Belcastel? Il a admis qu'il avait porté ce nom et qu'il avait écrit le roman du Bel Églantier. » Le primat de Mormarck haussa les épaules, les lèvres pincées par une moue sceptique. « N'a-t-il pas commencé par le nier ? » objecta-t-il. « L'espoir de sauver sa vie n'aurait-il pu lui inspirer un mensonge véniel ? Quand bien même il aurait travaillé sur le Bel Églantier, ne peut-on envisager qu'il n'ait été qu'un copiste dans l'atelier d'un sanctuaire de la vieille déesse ? Nous savons tous qu'il existe de nombreuses variantes du roman. Peut-être n'en était-il qu'un des contributeurs, et non l'auteur originel. » Avec un geste apaisant en direction de Winmer qui le toisait d'un air sombre, l'archichapelain s'empressa d'ajouter « Soyez assuré, mon ami, que je n'entends nullement nuire à la mémoire du frère Hummel. Au contraire, la vertu avec laquelle il a rejeté les offres du païen me remplit d'admiration. Mais aviez-vous les idées tout à fait claires après avoir subi tant d'épreuves? Vous venez de nous rapporter que vous aviez d'abord pris l'ermite pour le duc Griffon. Une folie excusable au vu des circonstances, mais une folie, vous en conviendrez. Admettez que votre témoignage n'est pas assez solide pour être pris pour argent comptant. » S'adressant ensuite à l'ensemble de la cour, le prélat ajouta avec plus d'éloquence « Gardons la tête froide. Il s'agit d'une manœuvre, sans quoi Ferbassac ne nous aurait pas remis le témoin de son crime. Il veut que nous croyions qu'il a assassiné l'un de nos plus éminents poètes. Cela signifie-t-il que sa victime est l'homme illustre? En fait, nous n'en savons rien. Le roi barbare nous provoque, mais à quelle fin? C'est toute la question. Prenons garde à ne pas nous précipiter dans le piège qu'il nous tend.
Je suis le premier à me méfier de tout ce que peut raconter le roman, intervint le frère Widmer, d'un air rembruni. Et je conviens que mes imaginations étaient absurdes. Mais j'étais présent dans le chevinage de Weckinsberg, pas vous. Dans les derniers moments de son existence, c'est la voix de Devin de Belcastel que j'ai entendue, et plus celle de l'ermite de Senante.
Alors que le doute s'immisçait dans l'assemblée des vassaux et des officiers, un sourire oblique éclaira l'expression du chevalier au pie. Ébauchant une courbette à l'intention de l'archichapelain rubestre, il prit la parole sur un ton affable.
« Mille grâces, monseigneur. Mon impair, semble-t-il, fut un moindre mal. Certes, un terrible malheur a frappé par ma faute ce pieux ermite. Mais s'il n'était point devin, on me pardonnera mieux ma méconduite. »
Haussant ses sourcils finement dessinés, il glissa avec un embarras charmant.
« Je crains d'être un bécassin que ce pauvre homme a dû prendre pour un fou. Lorsque je l'ai salué dans son ermitage, en tenant peu ou prou un discours dithyrambique, je me suis donc comporté en étourdi. Quelle bévue! Cela pique l'amour-propre d'être si peu dégourdi. »
L'air très pince sans rire, il s'étonna alors.
Et quelle délicatesse chez l'hôte de ne m'avoir point corrigé par souci de politesse.
Cette sortie, loin de tempérer les préventions dont l'elfe était l'objet, ne fit qu'ajouter au malaise.
« Chevalier !» intervint avec quelque hauteur le sénéchal de Varesquet. « Il est des circonstances où faire de l'esprit révèle qu'on en a guère. »
L'aventureux salua de bonne grâce.
« C'est qu'il est difficile de s'accuser ?»
s'excusa-t-il.
« Mais je dois à tout le moins, à défaut de la vie, mémoire gardée du malheureux écrivain. »
« Parlez plus clair, » s'irrita le sénéchal. « Confirmez-vous le témoignage du sergent du Sacre. Avez-vous livré Devin de Belcastel à l'ennemi ?»«
Hélas, j'ai pu renseigner Ferbassac sur la retraite de Devin, »
soupira le chevalier au pie.
« Mais je ne l'ai point livré. »
Ce n'était qu'une connaissance commune.
Nous en avons bavardé, et j'ai parlé de façon peu opportune. J'ai péché par imprudence. Comment imaginer qu'un pauvre potin enfanterait ses violences?
Vous soutenez donc que Devin de Belcastel a bien été la victime de votre légèreté,
gronda le primat rubestre.
Hélas, bien que je n'y ai point mis la main.
« Et d'où tenez-vous ces relations extravagantes, avec un fin lettré et un chef barbare ?»
repartit le sénéchal.
« Quelle est donc cette dame dont parlaient Devin et Ferbassac, si l'on en croit le frère Widmer ?»
Le chevalier au pie fit la moue.
« La question est indiscrète, » plaida-t-il.
« Nommons-la la dame du bois Oiselet.
Sa qualité est secrète. La courtoisie m'interdit d'en dire plus.
Le roman l'a désigné par deux noms,
rappela le frère sergent sur un ton incisif.
Il l'a appelé Sumardis et la Lissandière.
Une expression railleuse se peignit sur la figure du chevalier au pie.
C'est tout à fait ridicule,
persifla-t-il.
Vous conviendrez que ces noms sont saugrenus.
Seuls des paysans crédules jargonnent de si vulgaires sobriquets.
« Justement, » observa le sénéchal, « celle que l'on appelle la Lissandière n'est point étrangère à nos contes de coin du feu. »
Superstition païenne, désavoua l'archichapelain Rubestre. Ne nous égarons point sur ce terrain. En dépit de ces paroles, le prélat ne paraissait pas complètement fermé à l'idée. Scrutant le chevalier au pied d'un œil inquisiteur, il poursuivit sur un ton plus posé. Toutefois, que la Lysandière ne soit qu'une chimère n'empêche pas qu'on en usurpe le nom. Une imposture des plus singulières, car la mauvaise fée est redoutée par le bas peuple. À quelle fin se targuer d'une si douteuse qualité, sinon pour servir de douteux dessein ?
Comme voler des enfants ?
Repartit l'elfe avec un sourire en coin.
Allons donc. Croyez-vous des cancans signés ?
Incapable de se contenir plus longtemps, le frère Vinmer se leva et pointa un index accusateur vers le chevalier Hopi. « Quelle impudence ! Quelle mauvaise foi ! » s'écria-t-il. « Que faites-vous de Milouin, le garçon que vous avez enlevé à Goborchin ? Il est ici même, à Neuvidine, comme il se trouvait avec vous à Vikingsberg. »
« Milouin ? Naturellement. Ce gentil drôle est entré à mon service. » Je ne l'ai point enlevé, encore moins soumis à des sévices. Tous ici peuvent en juger.
Vraiment ? Alors pourquoi tout le finage de Goborchin a-t-il cherché l'enfant des semaines durant ? Pourquoi le seigneur du trèfle a-t-il envoyé ses sergents afin de battre les lisières ? Et pourquoi le sire de Vaumacel marchait-il sur vos traces en vous accusant du rapt de plusieurs petits-enfants ? Sire Dan, parlez ! Vous nous avez offert votre concours dans cette épreuve. Loin de confondre le chevalier Hopi, cette diatribe ne fit qu'accentuer son expression narquoise. Quant au chevalier de Vaumacel, il hocha brièvement la tête d'un air pondéré et, se tournant vers le comte, prit la parole d'une voix égale.
« Seigneur Anguzel, me permettez-vous de répondre à la requête du frère Vinmer ? Je suis en effet en mesure d'apporter quelques éclaircissements sur cette affaire. »
Anguzel de Kimark posa sur lui sa prunelle sans prononcer un mot, ni ébaucher un signe. Le malaise croissait chez les vassaux du suzerain qui savaient qu'il fallait craindre cette impassibilité. Le chevalier aux épines l'interpréta cependant comme une permission de parler.
« Vous dites vrai, frère sergent, »
reconnut-il.
Je suis venu à Goborchin parce que j'avais appris au château du trèfle que l'un des enfants du village avait disparu. Dans la même seigneurie, un autre petit garçon s'était volatilisé à peu près à la même époque. Et je remontais la piste de ses disparitions. Hélas, frère Vinmer, je crains qu'il n'y ait eu malentendu. Rappelez-vous, j'examinais toutes les explications possibles à propos de ces événements. Et je ne privilégiais pas l'hypothèse du rapt. Ce n'étaient point les enfants que je cherchais, mais ceux qu'ils avaient suivis. Et j'ai fini par les retrouver, en partie grâce à votre aide, en partie grâce au conseil du frère Hummel. Si je n'ai point demandé raison aux aventuriers du bois Oiselet, c'est parce que ce ne sont point des ravisseurs. Tout au plus, peut-on les considérer comme des charmeurs ? Les pages qu'ils recrutent les servent librement, et comme vous avez pu vous-même le constater, reçoivent une bonne éducation et sont bien traités. Frère Vinmer, ouvrez les yeux. Votre défiance pour Sir Hamelin est due pour partie à la désinvolture des aventureux, pour partie à une méprise dont je suis un peu responsable. »
Le soldat consacré demeura un instant interdit, puis, serrant les poings, se rebella contre cette plaidoirie.
« Quoi, Sire Dan ? Vous qui avez porté le manteau de l'ordre, vous prenez le parti de ces ravisseurs d'enfants.
Frère Vinmer, l'ordre du sacre défend la justice. En rétablissant les faits, je reste fidèle à ses valeurs.
Comment pouvez-vous tenir pareil discours ?
Vous savez tout comme moi que ces créatures sont des enchanteurs et des suborneurs.
Ne peut-on en dire autant de tous ceux qui cultivent de belles manières ?
Le frère sergent parut un instant suffoqué par ce mot d'esprit. Puis, bouillant d'indignation, il s'apprêta à répliquer. Mais il fut coupé dans son élan.
« C'est fait !»
aboya le comte. Des deux paumes, il frappa le panneau sculpté de son chali.
« C'est fait !»
répéta-t-il avec exaspération. Ses vassaux se roidirent, craignant l'un de ses brusques accès de colère.
« Êtes-vous devenu fou ? » gronda-t-il. « Quel procès faites-vous ? Qu'importent vos petits gueux, votre littérateur et vos mystérieuses dames ? Vous croyez-vous encore au tournoi de l'Indinas ? La peste vous emporte, réveillez-vous ! Il n'est plus temps de s'occuper de basse justice, de chanter des complaintes ou de disputer les faveurs des belles. Nous sommes à Neuvidine, et le barbare est à nos portes. De quoi est-il question aujourd'hui ? De qui marque ? Du sang de qui marque ? De la terre de qui marque ? Car si l'Ouroman tue mon fils, le lignage sera rompu. Qui marque ne s'en relèvera pas. Vous ne vous en relèverez pas. Et quand Kimark sera tombé, le duché, déjà éprouvé, ne pourra pas s'en remettre. Il n'y aura ni havre, ni revanche, ni espoir de retour.
Posant sur Vinmer un regard sans aménité, il décréta sur un ton tranchant
« Frère sergent, je vous remercie pour vos lumières et je vous prie de me laisser rendre justice comme je l'entends dans ma cour. »
Pour l'heure, contentez-vous d'être mon hôte. Ma chancellerie adressera une lettre au grand conseil de l'ordre. Je statuerai sur votre sort selon la réponse que j'en recevrai. Dans l'intervalle, vous serez sous ma protection. Et vous vous plierez donc à ma coutume.
Puis d'un geste sec, il congédia l'assistance. « Sortez !» ordonna-t-il. « Je dois délibérer au calme. Pour le moment, je ne garderai avec moi que mon conseil privé. » Et ses émissaires qui n'ont pas su racheter mon fils.
Deux écuyers reconduisirent courtoisement mais fermement le frère sergent vers le seuil. En quittant les appartements nobles, le soldat consacré lança un dernier coup d'œil plein de ressentiment au chevalier aux pies et au chevalier aux épines. La salle se vida lentement derrière le frère sergent et son escorte. Lorsqu'elle fut presque dépeuplée, le comte se leva brusquement, comme s'il avait eu des fourmis dans les jambes.
« On se joue de moi »
grommela-t-il. Il se mit à marcher lourdement, la mine mauvaise, tournant dans le beau volume de sa salle comme un ours en cage.
« C'est aussi mon avis ?»
renchérit l'archichapelain.
« Ce Vinmer est probablement sincère, mais on vous l'a envoyé afin de semer le désordre. » Peut-être devriez-vous le mettre au secret, pour éviter des troubles.
Le comte haussa les épaules.
« C'est trop tard !»
soupira-t-il.
Il y avait trop de témoins. Vrai ou fausse, son histoire ne peut que se répandre. Et dire qu'il répugnait à parler. Dire que je l'ai poussé dans ses retranchements. Ah ! Quelle gaucherie !
Finissant par s'arrêter devant le chevalier Ropi, il soutint son étrange regard.
« Dites-moi, messire l'aventureux, qu'êtes-vous réellement venu faire dans nos contrées ?»«
Peut-être trouver réponse à la question que vous venez de poser. »«
Vous moqueriez-vous de moi, impertinent oisel ?»«
Croyez qu'il n'est pas une once de raillerie dans ce que j'ai déclaré ?»
repartit l'elfe avec une légère inclination du chef.
« Le propre de l'aventure est d'ignorer l'objet réel de sa quête. »«
Discours des cervelés !»
grommela Anguzel. Il se tourna alors vers le chevalier aux épines.
« Et vous, Vaumacel, pour quelle raison vous étiez-vous mis en quête de ces hurluberlus ? N'aviez-vous pas mieux à faire comme restaurer votre honneur aux yeux de la noblesse de Bromel ? C'est ce que j'ai entrepris en épousant la cause de Monseigneur Blancandin. J'ai eu vent de la réputation des preux du bois Wesley, et je les ai ralliés pour renforcer notre parti.
Oui, enfin 2 sur 3. Le jet a rejoint l'adversaire.
Mais d'où connaissiez-vous ces aventureux? Comment saviez-vous qu'ils racolaient des enfants?
J'ai voyagé, Seigneur Comte. J'ai beaucoup appris sur les routes.
Le suzerain hocha la tête d'un air entendu.
Voyez-vous, moi, j'ai beaucoup vécu,
repartit-il, et je me flatte d'avoir bonne mémoire. Je me souviens de votre père, il y a 25 ans, quand il a combattu pour le mien au cours de la guerre du Hériban. C'est singulier, la fidélité de votre maison à la mienne, car après tout, nous n'avons jamais reçu votre hommage. Vous êtes toujours venu vous battre pour le plaisir et pour l'honneur. Il va de soi. Or, il me revient une rumeur galante qui courait à propos de votre père. On n'osait guère la lui dire en face, car il se montrait vétilleux sur la question et n'hésitait pas à jeter le gant aux cancaniers et aux indiscrets. Toujours est-il qu'on le disait fort épris d'une dame mystérieuse, dont il aurait conquis des faveurs dans une contrée lointaine, et que cela expliquait qu'il rejetait tout autre lien de vasselage. Sire Edan, cette dame énigmatique, aurait-elle un rapport avec la créature que Sir Hamlin appelle la dame du bois Wesley?
Seigneur Comte, c'est à mon père qu'il aurait fallu poser la question.
Évidemment, cela aurait été plus indiqué, mais je fais avec le veau ma selle que j'ai sous la main. Après tout, il est des histoires de famille qu'on se transmet de père en fils, comme le nom, et même le prénom. Ne portez-vous pas le même que celui de votre père? En outre, cela m'avait frappé, il y a 10 ans déjà, au cours de la défense de Mortemarque, vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Il n'y a que vos couleurs qui changent. Il me semble bien que le blason de votre père était semé de plus d'épines que le vôtre.
Vraiment? Peut-être ai-je épuré mes armoiries par souci de simplicité.
Au cours de cet échange, dans le dos du comte, le châtelain de Neuvidine s'était mis à scruter le chevalier aux épines avec attention. Comme son suzerain, Fulcrand de Mainbord était un vétéran de la guerre du Hériban. Les paroles d'Anguzel paraissaient avoir ranimé ses souvenirs, et il dévisageait le chevalier avec une incrédulité circonspecte. « Ce que je voudrais comprendre, » poursuivait le comte sur un ton incisif, « c'est ce qui vous lie à cet aventureux. Car cet aventureux lui-même est lié au roi Hardclyde, qui, semble-t-il, n'était pas étranger à un de nos romanciers à la mode. Or, ces relations extravagantes obscurcissent les chevaux qui m'entravent face à l'ennemi. »
Il n'est pas rare dans une cour qu'un prud'homme soit engagé dans des parties contraires,
observa Edan. Il avait pris soin de ne point regarder Elmgo de Varesquet en prononçant ces mots. Mais le sénéchal ne s'en rembrunit pas moins.
« Et vous, Vaumacel, êtes-vous engagé dans des parties contraires ?»
repartit le comte. « J'ai mis mon bras à votre disposition et je sers la duchesse Odéhard. Je la sers d'ailleurs parce que j'avais mis mon bras à votre disposition dans votre guerre contre son époux. Dans un sens, n'est-ce point à vous servir 2 fois ?»
Ayant parfaitement perçu l'arrogance de l'hommage, Anguzel parut sur le point de prendre la mouche.
« Et la duchesse est-elle la seule dame que vous servez ?»
se contenta-t-il de lancer non sans indélicatesse.
« C'est la première des dames dont je dois rétablir l'honneur, »
répliqua le chevalier aux épines. Le comte lui adressa un rictus ironique.
« Fort bien, »
apprécia-t-il.
« Je vais vous prendre au mot. »
Se détournant de ses interlocuteurs, Anguzel gagna la fenêtre que le chevalier Opie avait abandonnée au cours de la controverse avec le frère Vinmer. Les mains dans le dos,
le comte contempla un moment le paysage par-delà les échafaudages des tours inachevées. Des rumeurs plus effervescentes qu'à l'ordinaire remontaient des cours du château où l'annonce du meurtre de Devin de Belcastel se répandait dans la garnison. Mais le grand seigneur paraissait plutôt absorbé par le vaste panorama des collines, des bois et des campagnes, dont il avait le nom en partage. Cette rêverie se prolongea au point qu'il parut avoir oublié ses dignitaires et ses chevaliers. Il reprit toutefois la parole juste avant que sa songerie pût passer pour une absence.
« J'ai les mains liées »,
énonça-t-il avec un calme inquiétant. Faisant à nouveau face à ses vassaux et à ses hôtes, il développa froidement.
« J'ai les mains liées par Ferbassac. Certes, il a tué Devin peu avant la bataille d'Aberbechan. Ce crime commis avant la capture de Clodas ne me concernait pas. Mais quelques semaines plus tard, c'est à moi qu'il a livré le témoin du meurtre. C'est donc parce qu'il tient mon fils que le barbare m'a envoyé se rescaper. Le message est sans équivoque. Le geste que le roi Hartclyde a perpétré sur l'auteur du bel églantier, il le refera sans scrupule sur l'héritier de Kimark. Il m'empêche d'agir. Par là même, il vide lentement mais sûrement mes coffres, tout en sapant mon autorité. Voilà pourquoi la rançon que j'ai rassemblée dans le dessein de libérer Clodas ne l'intéresse pas. Tant qu'il me contient, il peut pousser son avantage contre l'armée de Ganelon.
Rien, toutefois, ne trahissait l'abattement dans le ton et l'attitude du comte. Au contraire, une flamme opiniâtre couvait dans son regard.
« J'ai les mains liées, » reprit-il. « Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Le barbare me tient en échec, mais il ne m'a pas privé de tous mes moyens. »
Revenant à pas lents vers son grand lit à colonnes, il développa sa pensée à haute voix.
Les guerriers des clans sont cupides, nous le savons tous. Lorsqu'ils combattent comme soudoyés, ils louent leur service à prix d'or et malheur au capitaine qui tarderait à verser la solde. Ferbassac a les coudées franches tant que l'armée ducale est en difficulté et que les bandes ouramandes peuvent vivre sur le pays. Aussi longtemps que ces hommes feront du butin, il pourra se passer de la somme qu'il m'a réclamée. Mais, si la guerre connaît un tournant, si Ganelon rétablit la situation et reprend du terrain, alors le roi Hartclyde aura à nouveau besoin d'argent. À ce moment-là, quand les risques de défection feront peser sur son armée plus de risques que l'entrée en lice de Kimark, il sera davantage disposé à l'échange. Voilà le cap qu'il convient d'adopter.
Cependant, il faudrait un soutien militaire aux troupes ducales pour qu'elles soient en mesure de reprendre l'initiative,
observa le sénéchal de Varesquet.
Et si nos troupes entrent ouvertement en guerre, la vie de Monseigneur Clodas ne tiendra plus qu'à un fil.
Voilà pourquoi nous resterons l'arme au pied,
décréta le comte,
et voilà pourquoi nous allons en appeler aux dames.
Il reprit sa place à l'avant du lit cérémoniel, siège de seigneur au justicier. Adoptant un maintien empreint d'autorité et de formalisme, il s'adressa alors au chevalier au pis.
« Sir Hamelin, je vous sais gré pour les services que vous m'avez rendus, encore qu'ils fussent toujours donnés à l'improviste. Je ne m'attendais ni à votre ralliement au camp du Dedans pendant le tournoi de Lindinas, ni à ce que vous réapparaissiez pour servir d'émissaire entre Ferbassac et Macour. Votre conversation et vos manières ne manquent pas d'agrément, mais vos liens avec le roi ennemi rendent votre position parmi nous de plus en plus incertaine. Ce que vient de révéler le frère Vinmer va vous valoir des inimitiés chez mes vassaux. Et j'ai suffisamment de soucis sans y ajouter des querelles entre vous et mes chevaliers. C'est pourquoi, Sir Hamelin, je vous donne mon congé. Je vous l'accorde non pour vous retirer ma faveur, mais au contraire pour vous la confirmer, car ce faisant, je vous épargne à vous comme à mes gens des effusions de sang inutiles. Et pour mieux vous convaincre de ma complaisance, je vous accorderai deux privilèges. Tout d'abord, je ne vous interrogerai pas plus avant sur cette mystérieuse dame du bois Oiselet, en dépit des liens manifestes qu'elle entretient avec le roi barbare. Au contraire, je vous prie de lui porter ce message. J'ai toujours été respectueux des dames, et malgré ses douteuses accointances, je ne la considère pas comme mon ennemi. Dites-lui au contraire que dans les limites que me prescrivent mon honneur et mes pouvoirs, je ferai tout pour lui être agréable. » Le chevalier au pis s'inclina avec grâce. « Monseigneur, je vous assure qu'un tact si courtois mettra son cœur en fête. » Sourit-il d'un air entendu. « Je suis fort aise que vous l'entendiez ainsi et j'espère que la dame prêtera une oreille favorable à mon compliment. » Tournant son visage vers le chevalier aux épines, le comte poursuivit. « C'est une autre dame dont nous devons nous entretenir, sire Edane. Je veux bien sûr parler de la duchesse Odéhard, dont nous nous sommes faits les défenseurs, vous et moi. » Le tournoi de l'immortel n'ayant hélas pas rencontré le succès que nous escomptions, je crois qu'il est temps que vous retrouviez la place qui est la vôtre au service de la duchesse, surtout après l'attentat odieux dont elle a été la victime. Je vous donne donc mon congé, à vous aussi, et je vous charge d'un message pour la haute et puissante dame. Adressez-lui mes respects, et assurez-la de mon indéfectible loyauté. Par-dessus tout, peignez-lui dans les termes les plus vifs la joie que j'ai éprouvée en apprenant son évasion. En cette période troublée, c'est la meilleure nouvelle que nous ayons reçue, et je me réjouis d'autant plus de sa libération qu'après tout, j'y ai joué un rôle de première importance en fixant sur moi l'attention du duc et de son connétable. Rassurez-la aussi sur ce point véniel. Je ne lui en veux nullement de n'avoir point été mis dans la confidence. Le secret de l'entreprise justifiait la dissimulation. Et comme je viens de le montrer à Sir Hamelin, j'ai grand scrupule à me montrer indiscret avec les dames. »
Anguzel de Kimark ponctua ces derniers mots d'un court silence, comme s'il y prêtait une portée particulière. Nul ne fut dupe parmi tous ces hommes de cour, et telle était bien l'intention du comte. Il fallait comprendre son message en creux. Rapportez-lui aussi combien le seigneur de Vert nous a manqué au cours du tournoi, reprit-il, et comment, en son absence, le fils cadet de la duchesse et mon propre fils ont été pris par le camp du dehors. C'est ce revers qui m'a valu, par un cruel coup du sort, la mauvaise fortune qui m'accable aujourd'hui, la capture de mon fils par Ferbassac et l'impossibilité d'agir où je suis réduit. Dites à la duchesse que je n'aurai pas la grossièreté de lui demander de me retourner la faveur que je lui ai faite. J'en appelle simplement à son cœur de mère, et je ne doute point qu'elle se représentera fort bien la détresse qui est la mienne. Or, il est en son pouvoir de m'aider à racheter mon fils et de nous permettre à tous de repousser l'ennemi. Il suffit qu'elle suspende la guerre qu'elle a lancée contre son époux. Mieux encore, qu'elle pousse le seigneur de Vert et son parti à appuyer l'armée ducale. Si le duché est soulagé sur le front intérieur, si le duc reçoit les renforts dont il a besoin, le barbare pourrait être mis en difficulté. Et dans ce cas, j'ai bon espoir que Ferbassac, à court de butin, aura besoin de la rançon de mon fils. »
Le chevalier de Vaumacel, d'une brève inclination de tête, signifia qu'il avait entendu ce qu'on attendait de lui.
« En somme, vous me chargez de recommander à madame la duchesse de faire la paix avec le duc. » résuma-t-il.
« Une trêve, tout au plus. Le temps que l'orage passe,
Un sourire froid éclaira un instant l'expression du grand seigneur.
« En fait, même pas jusqu'au terme de la guerre, » précisa-t-il.
« Mais jusqu'au moment où j'aurai racheté mon fils.
Après... »
Il esquissa un geste vague, comme si la tournure des événements ultérieurs était sans intérêt.
« L'idée est brillante, monseigneur, » approuva le sénéchal de Varesquet. « Elle ménage à la fois nos forces et la susceptibilité du barbare, tout en vous posant comme un conciliateur au sein de la famille ducale. En outre, la récente accession du baron de Maginois à la connétablie peut grandement faciliter les choses. Que le nouveau capitaine de l'armée ducale soit le frère de la duchesse Odéarde offre des perspectives très favorables. »
Le baron de Maginois a siégé parmi les juges qui ont condamné Madame la Duchesse.
Jugea bon de rappeler Eddan.
« Mais il se retrouve à la tête d'une armée en difficulté, »
répliqua le sénéchal.
« Il lui sera moins coûteux de faire amende honorable auprès de sa sœur que de risquer une défaite aussi désastreuse que celle du pont d'Aberbechan.
La difficulté ne viendra pas du connétable et encore moins du duc, »
renchérit le comte.
Ils ont trop besoin de renforts. Non, si réticence il y a, ce sera celle de la duchesse. Après tout, la déroute de Ganelon la venge. Cette dame bafouée ne peut qu'être tentée de faire payer très cher à son époux le déshonneur et le cloître, sans parler du geste criminel. Sans doute exigera-t-elle une réparation considérable, et qui le lui reprochera? Chevalier, vous lui direz que je l'appuierai dans toutes ses exigences. Pourvu qu'elle pardonne vite. »
Gérian de Froic, qui avait conservé un silence déférent depuis un moment, se racla alors la gorge.
« N'est-ce pas beaucoup demandé à la dame ? »
objecta-t-il.
« Que Sir Eddan ne prenne pas ombrage de mes propos, mais est-il le messager le plus indiqué pour soumettre vos propositions à Dame Odéarde ? Malgré ses récentes prouesses à Lindinas, rien n'assure qu'il a encore la faveur de la duchesse. Ne doit-il pas lui-même faire amende honorable ?
Par ma foi, je ferai tout pour obtenir mon pardon,
assura le chevalier aux épines.
Je n'en doute pas et je vous sais convaincant,
salua Sir Gérian.
Mais vous ne faites que confirmer mes craintes. Il y aura beaucoup à pardonner. D'abord le champion inconstant, ensuite, l'époux bigame. Ce sera déjà beau si la dame s'arrête à mi-chemin. »
Anguzel de Kimark parut entendre l'argument. Après s'être accordé un instant de réflexion, il reprit la parole.
« Tu vois juste, Froek. Or, une demi-mesure ne nous apportera rien. C'est pourquoi, Sir Eddan, je vais vous adjoindre un autre émissaire. « Avant de gagner vert, faites donc étape à Mormark. J'y accorde l'hospitalité au chevalier Cowyr de Thèves jusqu'à ce qu'il se remette de la blessure qui l'a navré au tournoi de l'Immortel. S'il est en état de chevaucher, priez-le de ma part de vous accompagner. Le chevalier de Thèves a défendu la duchesse lors de son procès. La dame lui fera bon accueil. » En outre, vous avez sauvé Thèves de la capture au commensail de Lindinas. Cela en fait votre obligé. En vous aidant à retrouver les bonnes grâces de la duchesse, il vous permettra de plaider notre cause. »
Le chevalier aux épines s'inclina légèrement.
« Je vous sais gré de m'accorder cet intercesseur pour renouer avec Madame la Duchesse. »
remercia-t-il.
« J'aurai plaisir à voyager en compagnie d'un prud'homme aussi courtois que Sir Cowyr. »
Le comte se rembrunit un peu à ces mots.
« Je ne vous envoie pas dans une partie de plaisir, Sir Eddan. Faites diligence et obtenez cette improbable victoire. La miséricorde d'une grande dame offensée. À Godemas, vous avez fait votre réputation et notre malheur à tous en combattant au pis. S'il le faut, renouvelez la prouesse. Humiliez-vous afin de restaurer un semblant de concorde entre les époux ducaux.